The winter is coming. Tous agglutinés autour du poêle au centre de la maison. On ne peut pas dire que c'était mieux avant puisqu'on est revenu maintenant à l'avant. Alors restons bien au chaud ensemble et écoutons la radio. Ça tombe bien, voici CMA. Bonsoir et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Ce soir, on va mettre une couronne sous le béret pour faire le tour de France des collèges, histoire de ramener un petit peu d'herbe. Voici le sommaire. Des lauriers aux diamants, elle n'a pas de dents contre la royauté. Bonsoir Sandra, de quoi parle-t-on ?
On va parler de la couronne et essentiellement, je vous propose un grand moment d'histoire sur les couronnes royales de la reine.
Oh, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
Trop cool.
Hein, au moins un mois. Voilà. Quand il s'agit de prendre les mesures, il se fait maître. Bonsoir Florian, quelle est la longueur de ta chronique ?
Oh. Bonsoir, non, c'est vraiment trop intime pour en dire plus.
D'accord. Ok, bah c'était son sujet, on verra bien. En trois émissions, elle a fait le tour des sports qu'il aime, mais il y a d'autres tours en France. Bonsoir Nicolas, ça roule ?
Bonsoir, bah ça roule. Pépère.
D'accord, ok, ça prépare de plus en plus les, ah ouais, les teasers. Hein.
Ah ouais, non, moi j'y vais
c'est
directement.
La rentrée,
je...
il donne tout.
Ah ouais, on donne tous les teasers, là, ça donne envie d'écouter.
Ça donne voilà. Envie, hein. Même Tour de France, c'est toujours hyper.
D'accord. Et bien sûr, le Graal répondra à vos questions, on y parlera de préhistoire et de Yeti. En deuxième partie, il y en aura Robin, Caroline et Titouan, qui reviendront aussi sur les origines des choses. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et il est temps maintenant de commencer. Voici la première partie de CMA. La reine n'a pas été enterrée avec sa couronne, ou alors celle qu'elle avait dans la bouche. Elle va nous en dresser ce soir, vous l'auriez deviné. Voici la chronique de Sandra.
Mille couronnes sauvages comme l'orage, force à l'insomnie. Mille couronnes de feu éclairent le ciel de milliers d'étoiles. Mille couronnes.
Eh ben, mille couronnes, ça en fait beaucoup quand même.
Faut aller la trouver celle-là. Hein. Bien joué. Eh oui, Stéphane Bern est en berne. Il était de mon devoir de le remplacer.
Sandra, tu sors.
Bravo. Il fallait que je la fasse, c'était évident. Mais j'aime beaucoup Stéphane Bern pour malgré tout.
D'accord.
Donc, je vous propose effectivement un moment d'histoire sur les couronnes royales de la reine, essentiellement, puisque je ne pouvais pas parler de tout. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la reine Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans.
Oh non.
Oui, à moins d'être au fond des bois, de ne pas avoir de radio, de ne pas avoir de télé, ouais, tout simplement. Mais bon, peut-être que quelques-uns ont encore échappé à cette information.
Peut-être.
Et donc, pour ceux qui ont suivi les diverses cérémonies, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait deux couronnes différentes déposées sur le cercueil. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas.
C'est possible.
Oui. Donc, celles-ci m'ont intriguée. Du coup, je me suis posé la question, en fait, de l'origine de la couronne. Et du coup, essentiellement de celle qui était sur... qui appartenait à la reine Elisabeth II. Donc la couronne est symbole de pouvoir légitime et de victoire. Elle évoque la monarchie, car souvent les couronnes sont ornées de pierres précieuses, et souvent elles sont portées par un roi et une reine, très souvent. Quoi. Bon, à l'époque, c'était effectivement les couronnes de laurier et les couronnes liées aux Grecs, plutôt liées aux Jeux Olympiques, par exemple.
Mm-hmm. Il y a César aussi qui en avait une.
Oui, César, ouais, celui de... Mais souvent, c'était plutôt lié à le fait de gagner quelque chose, en fait.
D'être le premier.
Ouais. Donc, elles sont aussi représentées sur les divinités, très souvent. Et la couronne, du coup, est un symbole de protection. Donc, une couronne sur la tête d'un roi montre que celui-ci a la bénédiction des dieux.
Mmh. Ça rappelle un petit peu les anges avec la...
Oui, l'auréole aussi, qu'il peut y avoir sur la tête. D'ailleurs, il me semble aussi... Alors, Marie aussi a une couronne... elle porte une couronne aussi.
D'accord. Quand elle a gagné Miss France.
Non.
Non, pardon.
Donc en général, la couronne, elle est portée seulement pour des cérémonies et notamment pour les représentations au Parlement.
Ah bon, elle l'a pas en permanence ?
Non, elle l'a pas en permanence.
Oh,
alors,
moi je l'imaginais aux toilettes avec la couronne et tout, ce serait top.
Non, c'est hein parce que c'est lourd. Moi je pensais qu'elle avait
fait un délire comme ça.
Oui, c'est lourd.
Je pensais qu'elle avait
ça.
Une couronne exprès pour aller aux toilettes. Moi je pensais
qu'elle avait ça, ouais. La couronne des toilettes.
C'est vrai que la couronne ça va toujours avec le trône, donc c'est mieux.
Joli. Non, c'est vrai, joli.
Donc effectivement, ce n'est pas un objet du quotidien de la royauté, mais plutôt un objet diplomatique, on pourrait dire. La raison est qu'une couronne royale, comme tu le disais, est très lourde. Donc on place une pièce de tissu entre la tête et la couronne pour ne pas se blesser, en fait.
Ah oui.
Oui, parce qu'il y a les pierres précieuses, mais elle est taillée aussi. Donc,
ah oui, donc on ne peut pas la poser comme ça. Il y a tout un cérémonial et tout ça pour bien installer la chose, quoi.
Oui, d'ailleurs, on ne peut pas la... l'avoir plus de 10 minutes sur la tête.
Bon, dans les cérémonies, elle a plus de 10 minutes.
Non, non, parce que par exemple, celle qu'elle avait, du coup, celle que la reine Elisabeth II avait, c'est la couronne impériale qu'elle portait, en fait. Donc, celle-ci, elle pèse 1 kilo, 910 grammes, quasiment 1 kilo, quoi.
D'accord.
Et donc, c'est 10 minutes, comme elle disait, si elle baisse la tête, en fait, le cou peut se briser. Ah. Donc, en fait, elle baisse pas la tête pour lire son texte, mais le texte...
vient à elle, d'accord. Ramener, tu m'étonnes qu'elle était petite.
Ce qui fait que... Ce qui fait qu'on se porte bien droite, en fait, avec la couronne.
Ah, c'est sûr que si elle a fait tomber, c'est con, parce que...
Ah bah oui.
Ah oui.
Elle a du cara là-dessus, hein. Ouais.
Et sachant qu'en fait, la couronne impériale que la reine Elisabeth II la portait, c'était la plus légère par rapport à ses prédécesseurs.
D'accord.
Donc, elle a été fabriquée par le joaillier Garrard & Co. pour le roi George VI, qui est le père d'Elisabeth II. C'est-à-dire...
Ah oui, donc ils ont tous la même, en fait. Ils se la passent...
ils se la passent. Alors, sauf que celle que... La couronne impériale d'Elisabeth II, c'était celle de son père, effectivement, qui a été fabriquée, mais c'est la réplique de la reine Victoria en 1838, qui, elle, était plus lourde, en fait.
Ah,
donc,
oui.
ils l'ont fait en plus léger.
Plus léger, d'accord.
Ouais. D'ailleurs, si vous voulez, vous connaissez le film « Discours d'un roi ».
Oui.
Ouais, voilà, le discours d'un roi, ça parle justement de l'ascension, j'allais dire, au trône, justement, du roi George VI.
Ok.
Voilà. Puisque ce n'est pas lui, normalement, qui aurait dû être roi.
Oui.
Son frère.
C'est son frère qui l'était, il est parti, c'est tout.
Oui, voilà, c'est ça. Celle-ci est la réplique, donc la couronne impériale, du coup, elle est d'une valeur inestimable, soi-disant 4 millions d'euros, mais peut-être même plus, en fait. Et elle possède 2868 diamants, 273 perles, 17 saphirs, 11 émeraudes et 5 rubis. Dont un diamant qui est le plus gros d'Afrique découvert en 1905. Et un saphir mystérieux. Alors ce saphir, en fait, c'est le saphir de Saint-Édouard, qui est le plus vieux bijou de cette couronne. En fait, il appartient en réalité à l'Écosse, qui pourrait réclamer ce saphir si un jour l'Écosse voulait reprendre son indépendance, en fait.
Oh le bordel.
Alors pourquoi ?
Un coup de caillou, c'est un peu...
Ouais, mais c'est un saphir qui a appartenu en fait au roi Édouard et qui était sur une bague. Et il a été enterré avec en 1066. Et en fait, la couronne d'Angleterre a déterré, je ne sais pas pour quelle raison, ne me demandez pas, a déterré le roi Édouard et a repris 100 ans plus tard le saphir qui était sur cette bague pour la poser sur cette couronne.
D'accord.
C'est beau, mais c'est un peu glauque quand même de se dire que c'était au bague de quelqu'un qui est mort et c'est sur une couronne.
Voilà.
Aussi, voilà.
Bon, alors maintenant...
Doigt, t'imagines.
Ouais, c'est ça.
Mais en tout cas, Charles, il va avoir la couronne de sa mère morte aussi. Hein.
Ah, oui, c'est vrai que c'est vu comme ça.
De la mère morte. Ouais. Après, oui... Les seules personnes du coup qui peuvent toucher la couronne impériale sont le monarque, l'archevêque de Canterbury et le joaillier effectivement qui est de la couronne. Donc elle est visible dans la tour de Londres quand ils la portent pas en fait.
Ok.
Alors il y a cette couronne impériale qui n'est pas à confondre avec la couronne qui servira au couronnement du roi Charles III. Ce ne sera pas la même.
Ah il aura une autre.
Il en aura une autre et celle-ci elle se nomme la couronne de Saint-Édouard.
D'accord.
Donc c'est une autre couronne en fait, mais qui n'est que pour le couronnement.
Ah d'accord,
ouais.
Et après il va reprendre l'autre pour...
C'est ça, pour les ouvertures au Parlement.
On sature, alors... je crois.
Et
on
oui.
Sature.
Ah bah attendez, parce que là, la
vas-y,
meilleure pour le meilleur pour la fin,
que...
Elisabeth II
oui,
n'était pas que la reine d'Angleterre, mais également Elisabeth Ière d'Écosse.
Oui.
Et donc, dans la première cérémonie à Édimbourg, sur son cercueil, reposait la couronne des Stuarts. Et donc celle-ci a une histoire incroyable, c'est-à-dire, c'est la plus ancienne couronne du Royaume-Uni qui date du XVIe siècle. Elle est le symbole de l'identité de l'Écosse, pour la simple raison que cette couronne a traversé les siècles sans jamais être transformée, celle-ci.
Ah,
voilà.
Donc c'est la vraie de vraie.
Et pourtant...
Elle pèse 15 kilos.
Voilà. Non, je sais pas. Cette couronne, elle a disparu deux fois dans l'histoire. Elle a été créée en 1540. Elle possède 22 grenats, 68 perles fines et un petit globe terrestre au-dessus.
Ouais.
Voilà, en émaillé bleu. Cette couronne, elle est mise à l'abri dans les années 1600 dans la forteresse du Notar parce qu'elle est entourée par la mer. Mmh. Et, Et puis il y a l'envahissement de l'Écosse par l'Angleterre, c'est pour ça. Et puis lors d'une attaque de la forteresse, le pasteur Christian Fletcher le cache sous le sol de l'église, situé pas très loin de la forteresse. Et donc pendant 10 ans, en fait, on va pas savoir où elle est. Et puis après, Charles II, il va revenir vers la forteresse qui est à moitié en ruine. Et la veuve du pasteur va dire en fait où était cette couronne.
Il déterre la couronne, d'accord.
Ouais,
voilà.
D'accord.
Alors c'est une autre, hein, c'est celle de l'Écosse, du coup, de Stuart.
Prends des notes.
Pas suivi.
Rapidement maintenant.
Alors rapidement, elle va en 1707, la couronne du coup disparaît une seconde fois. Le Parlement écossais est dissous. Et la couronne est enfermée dans un coffre au fond d'un caveau du château d'Édimbourg. Et en 1818, le roi George IV d'Angleterre demande à l'historien et écrivain Walter Scott de retrouver cette couronne à partir d'écrits anciens. Il découvre une pièce murée dans le château, la fait démolir, et la couronne est retrouvée dans un coffre 111 ans plus tard.
Dans un coffre.
Depuis 111 ans.
C'est bon.
Et ben,
voilà.
Et elle finit sur
depuis
les textes.
111 ans.
Très bien.
Voilà.
Eh bien,
donc, chers auditeurs, essayez de voter pour ma chronique pour être aide d'un jour.
Ah, ça, oh là oh. Ah, ça y est, maintenant, ils font du lobbying, maintenant. En direct, à l'antenne, pour pouvoir avoir le CNA+.
Ça sur ma chronique, aussi.
C'est ça.
Ah, bah, super,
c'est
bravo.
Bon.
Merci, ouais, bon Sandra. Dans un instant, on prendra les mesures pour faire un bon tour, mais pour la minute qui suit, on répond à vos questions que vous nous posez sur radio-g.fr. Pierre nous demande ce qu'est exactement la préhistoire. Eh bien, voici la réponse précise du Graal.
Question de Pierre, c'est quoi la préhistoire ?
C'est la période avant l'histoire, notre histoire, celle des hommes. Préhistoire, logique. Ce qu'on appelle la préhistoire est en fait une succession de trois phases. La première, le paléolithique, est celle où les futurs humains sont des chasseurs-cueilleurs qui ont vécu il y a plus de 12 000 ans. Parmi eux, ceux qu'on appelle les hommes de Néandertal. De 70 à 90 kilos, ils pouvaient mesurer 1m60. Le fait qu'ils soient les premiers à enterrer leur mort les fait appartenir à l'humanité, celle qui a conscience de la mort et qui se pose des questions sur la vie. Mais revenons à la préhistoire. Jusqu'il y a 7000 ans, on est dans le Mésolithique. C'est la période où on commence à inventer et à s'organiser. C'est une révolution qui va tout changer pour la troisième et dernière période, le Néolithique. C'est là qu'on découvre l'agriculture et l'élevage. Mais alors, quand finit la préhistoire et quand commence l'histoire ? Eh bien, tout simplement avec l'apparition de l'écriture, il y a 5300 ans. À partir de là, on peut lire notre histoire sans avoir à la chercher dans les ossements et les dessins des cavernes. Et bien voilà pour la réponse. Il est donc, c'était le Graal à retrouver à votre, donc, sur le podcast radio-g.fr. C'était rapide la fin, donc je me suis fait un peu avoir. Vous pouvez même poser vos questions sur Instagram et Facebook.
Sur quoi ?
Instagram. Et Facebook, question Graal.
Qu'est-ce qui se passe ?
Bon allez, il est maître en la matière, sa chronique est réglée au millimètre, nous sommes en mesure de l'écouter. On lance le chronomètre, voici la chronique de Florian.
L'unité de mesure principale est le mètre. On se base dessus pour comprendre ce que dit le mètre. Si tu retiens le mètre juste dans ta tête,
spaghetti,
tu pourras mesurer, tu verras c'est la fesse.
Ah, c'est une chanson mnémotechnique pour apprendre ce que c'est que le mètre.
Qui a enregistré ça dans son garage?
C'est un peu ça.
Oui, ce soir, je vous parle du mètre. Alors, le mètre, c'est l'unité de longueur qui est symbolisée par le M minuscule.
D'accord.
Voilà.
Merci pour ta chronique. On va retrouver maintenant Nicolas.
C'est pas fini, bien sûr. Alors, à quoi, à votre avis, correspond un mètre ?
À 100 mm.
Alors, oui, Robin fait signe avec ses mains.
Ah, c'est ça.
Alors, en fait...
Tard.
Une histoire d'un millième, d'un carreau de la circonférence de la Terre ou une bêtise du genre.
Ah, il y a de l'idée, c'est pas mal. Alors, effectivement, la Terre a quelque chose à voir avec le mètre, et c'est la première définition du mètre, puisque, alors je vous parlerai plus en détail après, mais en tout cas, à la base, on dit que c'est la 10 000 000e partie d'une moitié de méridien terrestre. Donc effectivement, donc c'est plutôt le méridien qui passe à Paris, pour le coup. Et un méridien vaut 20 003,9315 km.
Tu veux dire, si on tire un trait du pôle nord au pôle sud,
oui, nous
on
avons
a le méridien.
20 000 km à peu près.
Voilà, et on prend un tiers. On divise par 2.
Et tu divises par 10 millions.
D'accord.
Et tu obtiens 1 mètre.
Pourquoi ?
La distance d'un mètre.
Parce que. Voilà, ouais. J'ai entendu, pourquoi pas ?
Tranquille.
Tranquille.
Alors, donc, ça, c'est la première définition, ça se base sur la Terre. En tout cas, après, on a une deuxième définition, du coup. Qui est la longueur d'un mètre étalon. En fait, on avait un mètre étalon qui était en platine, on avait une barre en platine, et ça correspondait au mètre. Et on se référait toujours à cette barre pour dire ça c'est un mètre, et à chaque fois on déclinait dans, partout avec ce maître étalon.
Mais qui correspondait au maître...
qui correspondait au maître qu'on connaissait déjà. Oui. Ensuite, on a une troisième définition qui est un multiple d'une certaine longueur d'onde. Et en fait, on prend la longueur d'onde de l'isotope 86 du krypton.
Bien sûr.
Et on se dit que ça correspond au maître.
Attends, c'est Superman qui nous a fait le maître.
Ouais, c'est ça, le krypton, c'est Superman.
Ouais, hein, la kryptonite et tout. Ouais.
En 1983, on dit que le maître équivaut à la longueur du trajet parcouru par la lumière dans le vide pendant une durée d'un 299 792 458e de seconde.
D'accord.
Voilà, parfait. Mais ça correspond à un mètre.
Parce qu'on prend toujours le mètre de départ.
Oui, on a toujours le mètre en référence.
Voilà, et on essaie de trouver des références qui correspondent à ce mètre-là.
Tout à fait, d'accord. Pour affiner de plus en plus. J'en parlerai après.
Okay.
Alors, quelle est l'origine, du coup, du mètre ? En fait, l'idée d'une mesure universelle apparaît dans la tête d'un Italien en 1650 qui se réfère à un pendule battant la seconde. Donc, en fait, il met un pendule, ça bat la seconde et il dit ça, c'est un mètre.
D'accord.
Un pendule qui bat la seconde, c'est un mètre.
J'ai rien compris.
Bah, donc là, c'est pas pendule, une unité de mesure.
À la seconde, donc du coup, la
en une seconde, il fait un aller-retour.
La distance parcourue par le pendule, ça correspond à un mètre.
Mais il était balèze, son pendule. Hein.
Voilà. Alors, c'est pas très, très précis. Mais bon.
Mais il devait être balèze quand même.
Donc, il appelle ça le métro catholico, qui veut dire mesure universelle.
D'accord.
Du coup, rien à voir avec la religion catholique. et donc, on a gardé ce thème de métro.
D'accord.
Le mètre.
Ok.
En 1791, c'est là que les choses deviennent un peu plus sérieuses, l'Académie royale des sciences. C'est en France, préconise que le mètre fasse 10 millionièmes d'une moitié du méridien qui passe par Paris.
D'accord, je viens de le dire. C'est là que ça arrive.
En 1793, on établit que le mètre équivaut à 3 pieds, 11 lignes, 44 centièmes, soit 443,44 lignes de la toise de Paris. Donc là, on se réfère aux anciennes unités de mesure de l'Ancien Régime, en fait, en France. On avait la toise de Paris.
D'accord.
Parce que du coup, on connaissait que ça à la Révolution. Donc, pour déterminer le mètre nouveau,
on fait des équivalences.
Nouvelle mesure, on fait l'équivalence avec ce que les gens connaissent. En 1795, la Convention nationale adopte donc ce mètre officiellement. Donc, avant la Révolution française et depuis le début de l'humanité, on utilisait plutôt des parties du corps pour indiquer, tu l'as dit tout à l'heure, Bruno, pour indiquer les mesures de longueur. Alors, le plus ancien étalon de longueur en métal correspond à une unité sumérienne et date de 2650 avant Jésus-Christ. En fait, c'est une barre de cuivre qu'on a découvert à Nippur, sur les rives de l'Euphrate, donc c'est en Mésopotamie, à l'époque. Et en fait, voilà, c'est un étalon en cuivre, et il disait ça, c'était un mètre. En tout cas, c'est pas un mètre, mais une unité de mesure.
Oui. D'accord. Voilà.
C'est aussi l'origine du pied romain. Puisque les Romains reprennent les mesures égyptiennes, les Égyptiens ont repris les mesures sumériennes, et donc du coup...
On mesure en pied.
Et donc du coup, les Romains mesurent tout en pied. Voilà.
Quelle taille alors, quelle
donc,
pointure
les Sumériens ont divisé l'étalon sumérien, les Égyptiens ont divisé l'étalon sumérien en 28 pieds égyptiens.
Ouais.
Et les Romains, eux, ils en prennent 16 et forment leurs pieds à eux.
J'aurais pas aimé être à l'école à cette époque-là. les mathématiques devaient être bizarres quand même.
Et donc le pied romain correspondrait aujourd'hui à 29,63 cm.
Ok.
À peu près la mesure d'un pied fait à peu près 30 cm. Donc du coup, on est.
D'accord. On est dans le pied.
On est bien dans les clous.
Ok.
Alors le pied romain correspondait à 4 palmes, 12 pouces, 16 doigts. Une coudée romaine, c'était 1,5 pied. Un double pas, c'était 5 pieds. Et une lieue romaine, c'était 7500 pieds.
Mmh. Voilà.
Alors au Moyen-Âge, alors là, ça se complique parce qu'on a une multiplication des unités de mesure. Chaque contrée, chaque province fait ses propres mesures, du coup.
Bordel.
Et donc on retrouve des toises, des perches, des lignes, des pieds, plein d'autres trucs. En fait, chacun fait ses propres noms et ses propres mesures et ses propres références. Et donc du coup, on arrive à quelque chose qui fait qu'à Paris, on a la perche qui vaut 3 toises, qui vaut 18 pieds. Mais pour les travaux royaux, la perche vaut 22 pieds et pas 18.
Ok.
Donc là, tout le monde est paumé, quoi.
Donc là, tout le monde, effectivement, est paumé. Donc, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Alors, heureusement que le mètre est devenu l'unité de mesure de référence dans le système international, qui a été établi en 1875.
Mais pas dans tous les pays.
Pas dans tous les pays, effectivement. Puisqu'on a encore le système anglo-saxon de mesure, qui, eux, continuent à utiliser le ward, le pied ou le pouce. Et donc, le ward, ça équivaut à environ 0,91 mètres. Donc, un peu moins d'un mètre pour nous.
Mmh.
On est quand même pas très loin, mais du coup ça décale quand même les choses quand on parle en yard ou en mètre. Alors depuis 1875, on a une définition qui cesse d'évoluer puisqu'on affine de plus en plus la marge d'erreur qu'on a entre le mètre qu'on connaît. Donc on est passé de 0,5-0,1 mm à 0,1 nanomètre d'écart. Et depuis 2019, on a une nouvelle définition. Donc tout à l'heure, je vous ai cité une définition par rapport à la vitesse de la lumière dans le vide, tout ça. Mm-hmm. Et bien depuis 2019, c'est plus celle-ci. En tout cas, elle a été un petit peu affinée puisqu'on a revu la définition de la seconde. Et donc forcément, ça a fait changer un tout petit peu la définition du mètre. Okay. Puisque du coup, le mètre, notre unité de longueur, est aujourd'hui définie par rapport à une unité de temps.
Putain, si tu gagnes le CMA avec ça, moi, t'es...
Et donc,
t'es un génie. Hein.
Aujourd'hui, la base un petit peu fondamentale des définitions, en fait, on se base beaucoup sur l'atome de césium-133.
Ouais. Quelqu'un veut un café ?
On tire beaucoup de choses, en fait, par rapport à cet atome.
Ok.
Voilà. Donc, on passe de l'infiniment grand, du coup, ou en tout cas, quelque chose qu'on connaissait, à l'infiniment petit, en fait, au fur et à mesure de l'évolution des sciences, de la physique et tout ça.
Merci, maître. Voilà. Ok, merci, Florian.
C'était mieux après, pour le coup. Parce
ah bah oui, là, oui, avant, là, on avait un peu de mal.
On voit la différence.
C'est bien joué.
Allez, c'est un chroniqueur dopé qui arrive maintenant. Ça roule pour lui. Il nous invite à faire un tour avec lui, mais il va falloir le suivre. Voici la chronique de Nicolas.
Allez, allez, c'est le tour de France. Prenons le maillot jaune.
Merci pour ce générique.
Eh oui.
Ils sont toujours incroyables. Hein.
Incroyable.
Bonjour à tous, ça va ?
Ouais. On leur fait. Allez, on y va.
Bon, alors, parce que moi, pas du tout. Depuis la dernière émission, on a perdu deux grands monuments de ce monde, à savoir, comme on disait, la reine d'Angleterre, et Roger Federer. On a perdu Roger Federer.
Il l'a placé. En réunion de prépa, il nous dit, ouais, j'ai envie de parler de Federer.
Ouais, ouais,
j'ai
mais
dit, non, t'as déjà parlé du tennis, va pas nous gonfler avec ça.
Voilà.
Il arrive à le placer quand même.
Roger Federer.
Ok. Allez.
Alors, j'aurais voulu pouvoir reparler de la carrière du second, à savoir Roger Federer, bien qu'elle soit bien moins longue que celle de la première.
Escroc.
Voilà. Mais je me suis dit que le sujet avait déjà été abordé, et puis de toute façon, la plaie dans mon petit cœur est déjà encore grande ouverte. Sacré Roger.
Mais il est pas mort.
Non, il est pas mort, mais bon, il arrête de jouer au tennis, c'est une catastrophe. Rendez-vous.
Ah, ok.
Du coup, en cherchant le sujet de ma prochaine chronique, je me suis fait une réflexion très profonde, et je me suis dit, mais dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'un truc chiant.
Ah non, ça fait deux minutes.
C'est vrai, voilà. C'était pas prévu, je me suis pas concerté. C'est donc pour ça que j'ai décidé de parler de cyclisme, et plus particulièrement du Tour de France.
Ah, passionnant, effectivement.
Ah, le Tour, le rendez-vous estival de tous les adeptes de cyclisme ou de sieste, qui se déroule durant 3 semaines. Interminable pour certains, incroyable et forte en émotion pour d'autres. Alors on va parler vélo, on va parler camping-car au bord des routes, on va parler caravane du Tour, enfin bref. Une chronique bien estivale. Pardon à tous les nostalgiques de l'été, cette chronique n'est pas faite pour vous. Alors le Tour de France, c'est quand même un monument des événements sportifs en France, mais aussi à travers le monde. C'est une des compétitions les plus suivies après les JO et la Coupe du Monde de foot. Elle rassemble des millions de personnes au bord des routes et même derrière les écrans durant 3 semaines. Alors le Tour de France, il a été créé en 1903 par le journal Lotto. Ouais, c'est un vrai truc, c'est vraiment par le journal Lotto.
L-A-U-T-O, pas le
L-O-T-O. Ah non,
non. L-O-T-O.
Ah si, c'est ça, oui, c'est
l'auto. Ouais.
Donc ça parle de voiture, mais ils font un truc de vélo. Voilà.
Ah ouais.
À l'initiative de son rédacteur en chef, donc Henri Desgranges, par volonté de créer un événement, en fait, et puis de le faire vendre son journal. Du coup, le coup de génie, c'est d'avoir su marier le cyclisme, donc un sport individuel et assez compliqué, avec le peuple tout entier. Car le Tour, surtout de 1910 à 1931, il fait réellement le Tour de France. Donc on part pas des Pays-Bas pour passer par la Nouvelle-Zélande, et pourquoi pas, tiens, faire un petit tour par l'Australie pour enfin arriver en Belgique. Et arrivé en fait à Paris.
Entre 14 et 18.
Petite pointe de critique quand même pour les.
Voilà, exactement. J'en ai marre de partir des Pays-Bas. Merde.
Et entre 14 et 18, ils sont pas passés par l'Allemagne ?
Non, ils ont. Bon, ils ont évité.
Je sais pas.
Entre 39 et 45 aussi, c'est pareil. Ouais, c'était un peu compliqué.
C'est ça.
Alors le succès, il est immédiat. Les Français se passionnent très rapidement pour cet exploit surhumain. Et quand je parle d'exploit surhumain, c'est réellement des exploits à cette époque-là. Parce que faire 400-450 bornes pour une seule étape, c'est surhumain. Et pas que pour l'époque, même aujourd'hui. Les cyclistes, ils grimpent des cols sur des vélos encore très lourds, sans dérailleur, donc sans vitesse, avec des chambres à air de secours enroulées autour du buste. Car oui, on n'avait pas de Peugeot 308 avec 14 vélos sur le toit derrière. Chaque coureur qui, si jamais tu crèves, tu te démerdes et tu changes ta roue tout seul, Bernard.
Ouais.
Ce qui se développe en même temps que le Tour, c'est la radio. Car oui, avant, le seul moyen de suivre la grande boucle, c'était grâce à ça. Et oui, pas de télé et encore moins de Laurent Jalabert et de Vélo Club, les adeptes auront la rêve. Du coup, je vous refais la petite scène. Le père de famille, il sort la grosse carte Michelin, il l'accroche sur le mur du salon et il trace les étapes à l'aide de petites épingles. Et grâce à la radio et aux commentaires, toute la famille suit les coureurs. Donc c'est une bonne manière de connaître un peu la géographie pour les enfants de l'époque, etc.
Ouais.
Alors imaginez maintenant quand la télé est arrivée dans les années 50. Le Tour de France, c'est alors devenu une vitrine exceptionnelle pour la France et ses villes. Et donc du coup, elles se battent pour accueillir les étapes de la Grande Boucle afin de les mettre en avant. Et c'est là qu'on a vu le tracé changer. C'est-à-dire qu'on là, on faisait plus le Tour de la France, mais on passait par des étapes, par des villes, puisqu'elles payaient un peu plus. Ouais.
Ah oui, c'est ça, c'est devenu. C'est parce qu'elles payent que ça a changé, quoi.
Exactement. Donc c'est là qu'on a commencé à aller aux Pays-Bas et tout.
C'était pas pour varier les paysages.
Non, pas tellement. Parce que vraiment, avant, tu regardes le tracé des premiers Tours de France, ouais. Ça fait vraiment le tour. Le ça tour. Part de Calais, ça fait le tour, machin, hop, d'accord. Puis ça arrive à Paris, quoi. Le Tour, c'est aussi une vitrine pour des marques, avec notamment la caravane du Tour. C'est presque aussi mythique que la course en elle-même. Elle passe avant les coureurs et elle distribue des petits cadeaux, hein, sur le bord des routes. On a tous en tête les deux chevaux cochonous avec les lanceurs de saucissons, la mascotte Nesquik en voiture jaune, ouais. La Smart à poids rouge, le lion géant du Crédit Lyonnais, etc. Et le Tour, il a toutes ses petites et ses grandes mythologies. Il y a les étapes mythiques comme la montée de l'Alpe d'Huez ou encore le sprint des Champs-Élysées sur les pavés. Il y a les voix des commentateurs à la télévision. Il y a les maillots aussi, hein, le maillot jaune pour le leader du classement général.
Yvette Horner.
Yvette Horner, ah non, j'ai pas la ref. Ah si, Yvette Horner, c'est
bah,
celle qui
quand
chantait.
Même, celle qui chantait voilà, c'est ça. Sur bah,
d'ailleurs,
ses deux
c'était
chevaux.
C'était la seule femme qui était sur, qui était dans, qui faisait partie du dispositif Tour de France.
Vraiment officiel, d'accord. Ouais.
Et alors pourquoi le maillot jaune? Parce qu'en fait, les pages du journal Loto que je parlais l'autre jour, enfin tout à l'heure, eh ben, elles étaient jaunes, les pages.
Ah d'accord.
Mmh. Du coup, bah le maillot est devenu jaune.
Ah ouais.
Il y a le maillot vert.
C'était quel journal qui avait des pages rouges avec points blancs, enfin des blancs à points rouges.
Il y avait le maillot vert donc du meilleur sprinter. Il y avait le maillot blanc pour le meilleur jeune, donc celui qui a moins 25 ans, et le maillot à poids. Alors les couleurs après des autres maillots, c'est plus pour des sponsors en fait. Les sponsors qui étaient verts, bah ils mettaient le maillot de la couleur verte.
Ah ouais.
Donc voilà. Donc le Tour, il a aussi ses coureurs légendaires, Maurice Garin, le premier vainqueur, il y a Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, hein, Poupou, ou encore Eddy Merckx. Mais cette compétition, elle a aussi ses drames, comme la mort quasi en direct de Tom Simpson sur le Mont Ventoux en 1967, vaincu par la chaleur et la fatigue. Attends, on me dit au téléphone qu'il y a aussi l'alcool et les amphétamines. Ah oui, oui, parce que le dopage est aussi vieux que le cyclisme.
Pantani.
Voilà, Pantani aussi, voilà, évidemment.
Hein, Festina aussi.
Festina, mais voilà, à savoir que c'est la seule phrase où je citerai le dopage, car tout le monde sait, ils savent, nous savons qu'ils savent, et ils savent que nous savons qu'ils savent qu'ils se dopent, donc pas besoin d'en faire tout un fromage.
Bah c'est quand même leur vie qui est en jeu, quoi, c'est ça qui est dommage.
Voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est que après ça met des gens en danger. Alors oui, depuis quelques années, le Tour de France a un peu moins de succès que dans les années 80, mais personnellement, je prends toujours autant de plaisir à suivre les étapes, parce que le Tour de France, c'est pas uniquement un groupe de gars qui font du vélo, c'est tout un folklore, c'est une ambiance, et je trouve qu'un été sans Tour de France, c'est pas vraiment un été. Alors, c'est bonne journée à tous et toutes, et surtout, vive le Tour.
Oh, c'est beau.
Et vive le Tour.
C'est beau. Bah, en tout cas, on espère qu'en Federer fera du vélo pendant sa retraite.
Je ferai une chronique sur Federer, je tiens à le prévenir tout de suite. Il y passera. Voilà, Federer passera dans CMA.
Oh là là, merci Nicolas. Dans quelques minutes, on troque notre couronne contre un béret et on parle d'herbe et de collège. Mais là, c'est le moment de la pause. Dans quelques semaines, renaîtra à Paris une comédie musicale qui n'a de cesse d'être reprise. Et pourtant, sa première représentation date de 1979, soit il y a 43 ans. Et pourtant, son histoire sur le star system et la montée des extrémistes est toujours autant d'actualité. Alors, à l'origine, Daniel Balavoine, Fabienne Thibault ou encore France Gall composaient la distribution. De nouveaux artistes vont donc reprendre les chansons de Michel Berger et Luc Plamondon. Et cette fois, c'est Thomas Joly qui s'y colle pour la mise en scène. Oui, le Thomas Joly, directeur du théâtre Le Quai d'Angers, celui-là même qui a mis en scène les 24 heures du spectacle de Richard III. Ça promet. Vous voyez de quel spectacle je veux parler?
Oui. C'est deux fois 24 heures, 48
oui,
ans.
Oui, non, mais après,
ouais,
non,
c'est Starmania.
C'est Starmania, ah, oui, évidemment. D'accord. Alors, avant de savoir si c'était mieux avant ou après, c'est on vous bien. Propose un extrait de la version de 1988.
On arrive en vie.
Alors, c'est pas celle-ci. On retrouve 0 janvier, un dictateur qui veut être un artiste, et Stella, une bimbo qui hésite entre sa place dorée auprès de lui, en sachant qu'elle est utilisée à des fins politiques, ou son émancipation. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez moderne. Voici Ego Trip, un extrait de Starmania dans CMA. Oh
blanc. Les gens qui viennent à cette soirée veulent en avoir pour
C'était Ego Trip, un extrait de Starmania de 1988, déjà une reprise de l'original, donc de 79. On verra bien ce que ça donnera, cette version de 2022 avec Thomas Joly en novembre à Paris. Vous êtes toujours dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Voici le sommaire de la deuxième partie. Il adore l'école, pas celle qui se sniffe, l'école. Celle où on apprend les choses. Bonsoir Robin, tu récites quoi ce soir ?
Bonsoir. Alors oui, même si on sniffait ça à l'école, et pourtant, moi, je vais vous parler des collèges et lycées.
Ok. Elle aimerait qu'on lui lâche les basques, quelquefois. Oh. Ça nous prend bien la tête ce soir. Bonsoir Caroline, on parle de quoi ?
Eh bien, on va parler du béret. Est-il français ?
Ah.
Bonne question. Hein.
Bonne question.
Bah oui.
Il ne la fume pas. Il ne la fume pas, mais la broute. Bonsoir Titouan. Oh.
Bonsoir.
Quel est ton sujet ?
Pour vous prendre le chou ce soir à nouveau, c'est l'herbe.
À l'herbe, très bien. Le collège, l'herbe.
En plus.
Pour le Graal, Margot nous demande si le Yeti existe. Eh bien, on a la réponse également. Allez, en avant pour la deuxième partie de CMA. Il a dépassé le stade primaire, mais même s'il arrive au bout, il ne pourra être que troisième. Entrons au collège avec Robin.
Ok, collège, nous voilà pour répondre présent à l'appel. L'avenir qui donne des ailes,
autant
de conjuguer tout ça.
Voilà.
Non mais oui, donc c'est cette période-là, le collège, le lycée, où on ne vieillit jamais. Puis après avoir bien profité de ces années, on regarde en arrière et on se dit, mince, la sixième, c'était il y a 10 ans. Bon, pour la plupart des gens autour de cette table, c'était il y a plus de 10 ans, mais je ne dirai rien, c'est mon
Calme-toi
coup de
pas.
Vieux. Mmh. Mais bon, d'où viennent le collège et le lycée ? Qui a eu l'idée de fabriquer cette prison où on nous torture, hein, parce que oui, quand on a 13 ans, on
imagine
pas...
Ah oui, t'as des bons souvenirs, toi, de l'école. Hein.
Non, mais quand on est au collège, on n'imagine pas que c'est un privilège de réussir à aller à l'école, machin. On se dit, ah ben non, de te voir, c'est de la torture, on n'a pas le droit, c'est du travail, on devrait être payé, tout ça. Tous les arguments,
c'est
tous
vrai.
Les
conditions.
Alors,
c'est vrai
on devrait être payé, peut-être qu'ils le disent maintenant, mais à l'époque, on ne le disait pas quand même.
Moi, hein, disais,
on ah bon, tu disais ça, toi ?
Ah oui, c'était le truc de l'époque, ouais, si.
Bon, alors, à la base, en fait, l'éducation était totalement privée. On engageait Aristote, Socrate, Cicéron et d'autres pédagogue.
Ah oui, mais à la grande base, là, tu reviens...
Ah
tu,
bah...
tu reviens très loin.
Bah oui,
les origines des origines.
Voilà, c'est l'origine.
Bah, le lycée, oui.
Oui, bah, à la base, il n'y avait pas de lycée. Donc, c'était les nobles qui engageaient des gens, les pauvres se débrouillaient avec le tonton qui connaît quelques bases de maths ou de latin. Enfin, bref, compliqué. En France, c'est surtout au Moyen-Âge qu'on développe des institutions pour apprendre à plusieurs, mais surtout pour avoir un savoir uniforme. Et pas avoir des brels qui se ramènent pour devenir secrétaire du roi, mais qui ne savent pas écrire. Donc les universités apparaissent et les élèves ont des premières années communes qu'on appelle trivium et quadrivium. Donc des mots un peu triviaux pour dire qu'en fait c'était environ vers 14 ans, on apprend la grammaire, la rhétorique, l'arithmétrique, etc., etc. Et ensuite ils font du droit, de la médecine, de la théologie, enfin après c'est université année sup. Mais bon, à côté de ces universités, qui sont quand même très peu nombreuses, hein, se créent des collèges. Collège comme on l'entend plus ou moins aujourd'hui, sauf qu'à l'époque ils appellent ça des hostels. Vraiment c'est une pension pour les étudiants les plus pauvres, mais qui vont quand même à l'université. Puis dans ces pensions on y intègre des cours, et là paf, ça fait des chocs à pic. Non, c'est...
Mais du coup ils étaient jeunes, ils étaient plus jeunes à l'époque.
Ouais c'est ça, en gros ils commençaient vers 14 ans et ça se terminait à 20 ans, 25, 22, 23 ans, etc.
D'accord. Mais... c'est tard quand même 14 ans, c'est-à-dire qu'ils faisaient pas d'école avant 14 ans.
Bah avant c'était les parents surtout qui s'occupaient de ça, et ah ouais. T'avais quelques institutions peut-être dans les villages, mais c'était avec les curés, c'était avec voilà. D'accord. Bah, c'était pas une institution publique.
Ah, ça devait être compliqué de remettre tout le monde à niveau à 14 ans, hein.
Bah ouais. En même temps les universités c'était dans pas beaucoup de villes, hein. T'avais pas beaucoup d'universités, et justement elles sont très peu nombreuses. On en compte à peu près 271 à l'époque de la Révolution, enfin 271
dans toute la
collèges.
France
271 collèges, mais en gros, le savoir, c'est assez bien répandu. Mmh. Et pour comparer un petit peu, aujourd'hui, il y a presque 7000 collèges.
Bah oui, oui.
Petite différence.
Et puis, il y a beaucoup plus de monde dans chaque collège aussi.
Exactement. Ah oui, et j'allais oublier, pour vous, mesdames, c'est définitivement mieux après, puisque vous étiez interdite de fréquenter les établissements de culture et tout ça.
Bah oui, forcément.
Un bon. À partir de quand, alors, ils ont pu...
Ah bah, ça, c'est parfait, ça va venir. C'est la suite.
Vous nous craignez.
Donc, durant la période de la Révolution, on révolutionne, donc à bas les collèges et vive les écoles centrales. Bon, c'est la même, hein, mais avec moins d'églises et des têtes en moins. Donc, quelques années plus tard, ça devient des lycées d'État, et les villes vont s'occuper d'une partie de ces écoles centrales, qui finissent sous le nom de collège ou école secondaire communale. Et on arrive petit à petit à quelque chose qu'on connaît nous aujourd'hui. Bon, Napoléon en profite pour créer en 1808 un diplôme qu'on connaît tous.
Le baccalauréat.
Exactement, le baccalauréat, mais aussi la licence et le doctorat. Ah. Et la soumission de la femme à l'homme, mais ça c'est encore autre chose. Mais bon, du coup...
Il l'a pas inventé.
Ah non, il l'a pas inventé, mais il l'a bien remis au goût du jour.
Ah, d'accord.
Bon, du coup, on va quand même dans le même sens que lors de la création des universités au Moyen-Âge, puisque l'idée c'est encore d'uniformiser le niveau scolaire, de pouvoir dire j'ai le baccalauréat et pas de dire bon, j'ai des connaissances en arithmétique et tout, pas trop mauvaises. Mais bon, c'est toujours pas avec Napoléon que les femmes vont à l'école. Ça, il faut attendre 1880, juste avant l'école pour tous de Jules Ferry, qui lui, on connaît beaucoup plus, école obligatoire, patati patata. Aujourd'hui en France, les collèges et lycées peuvent être privés ou publics. On a environ 1 million de jeunes qui étudient dans des établissements privés et pour presque 6 millions dans le public. Ça m'a impressionné, je pensais pas que c'était à ce point-là. Mmh. Et les établissements privés.
En même temps, c'est obligatoire, hein, donc du coup.
Oui, non, mais en fait, c'est la part de privé et public qui m'a impressionné. Ouais. Moi, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient dans le privé. Mmh. Mais en fait, c'est pas surprenant tant que ça quand tu regardes. Enfin bref. Les établissements privés étant surtout catholiques, mais il en existe aussi à confession juive et musulmane, même s'ils sont quand même bien plus rares. Et aujourd'hui, pas besoin de s'en remettre au hasard pour espérer tomber dans une famille assez riche pour nous payer un pédagogue. Non, non, on a l'État qui se charge d'éduquer sa population. Et ça, c'est quand même bien mieux après.
Bah oui, tu m'étonnes. Et du coup, il a réussi quand même à faire une chronique sur l'école sans parler de Charlemagne, moi je dis.
Pas mal.
Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, bravo, bravo. Non, non, très bien, très bien. Que des nouveaux noms, parfait. Merci, en tout cas, Robin. Quand ils sont verts, ils sont militaires. On va quand même éviter la Bérésina. Sortez les flingues. S'il y en a beaucoup, voici Beretta. Oh. Allez, chronique de Caroline.
C'est d'aller loin.
Le Béarnais aime le mettre en pointe. Le Basque, lui, le met sur l'occiput. Et le Landais, sans reproche et sans crainte, le pose ainsi quand il veut dire zut. C'est tout petit, mais c'est une merveille. Pour réfléchir, c'est ainsi qu'on le met. Et pour crâner, on le met sur l'oreille. Quel orateur, ce cochon de béret.
Voilà, il y a toute ta chronique dans le titre.
Merci, oui. bonjour Paris, bonjour la France, yes, le Champs-Élysées.
Caroline is a gros cochon. Ouais, c'est ça.
Voilà. Parce que après le pain, le fromage, la tour Eiffel, bien sûr, l'accessoire qui caractérise le mieux la France, c'est...
Le béret.
Oui, bien sûr. Alors, le béret, qu'est-ce donc ? Eh bien, c'est un chapeau plat, circulaire, en laine feutrée, imperméable, facile à ranger.
Ce que tu as sur la tête ce soir, on va le monter sur les réseaux sociaux.
Exactement. Voilà, fin de la chronique. Eh bien, non. Alors, la légende... Eh oui, parce qu'il y a une légende.
Elle okay. pose pendant sa chronique.
Alors, la légende dit que Noé, dans son arche, a inventé le feutre. Pourquoi ?
Pour écrire ?
Non, la matière, le feutre. En fait, il avait installé des litières pour ses moutons. Évidemment, un mélange de foin, de pelage et de laine tombée avec l'humidité et une petite compression due à l'espace un peu restreint a créé une sorte de feutre, en fait, qui a fait de la litière au début pour les animaux et ensuite qui l'a mis sur sa tête. Tout simple.
Ah oui.
Alors, ouais.
Ah, parce que oui, des trucs fermentés. Ouais.
Au niveau fact-checking, je sais pas, on doit être dans les 0,01%.
Je sais pas à quel moment il a pu penser de partir à ouais. tête. Bon, c'est comme ça, c'est
on
Noé, on le salue.
Sur sûr. Hein,
mais c'était pour se protéger la tête. Voilà, très ça faisait d'accord. une petite calotte un petit peu.
Ouais, ouais. D'accord.
Solide.
Original. Ouais.
Alors,
on te croit.
Ensuite, on retrouve le béret à l'époque antique, bien sûr. Alors, des archéologues ont retrouvé des bérets dans des tombes de l'âge du bronze. Donc, 3200 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, Robin ?
3200.
En Italie, au Danemark et en Europe centrale. Ensuite, c'est en Grèce et à Rome que l'on retrouve des petits chapeaux plats qui servaient pour le soleil. Ils étaient souples et ils étaient en feutre et ça s'appelait des pétassos.
C'était pour les filles uniquement.
Non, c'était pas. Alors là, je parle encore une fois, exclusivement pour les hommes. Hein.
D'accord.
Alors, le feutre, c'était génial parce qu'en fait, c'était bon marché et très facile à fabriquer. Donc, le feutre protégeait des intempéries. On le retrouvait essentiellement chez les agriculteurs et les pasteurs qui se sont appropriés la matière. Voilà. Donc, c'est devenu ensuite un chapeau de pauvres, voilà, qui au 14e et au 15e va devenir le chapeau des artistes. On le retrouve dans les tableaux de Vermeer, de Rembrandt.
Ah oui, mais on est loin du voilà. béret, là.
Ah non, si, c'était le béret, le petit chapeau. On appelait ça le chapeau à feutre.
Ah d'accord.
À la base, ça s'appelait pas encore béret.
Mais ça protège des intempéries, parce que tu mets de l'eau
vraiment.
Là-dessus. Bah, ça, c'est... Au
non,
niveau
quand
de l'eau,
il est bien
nul.
Conditionné, bien compressé, en fait,
ah ouais.
ça passe.
Parce que le feutre avec l'eau, normalement,
ça
c'est
passe
pas...
passe pas, du coup.
Pas génial. Oh. Oui, c'est ça. Ouais,
oui,
ça
passe pas plutôt. Mais non, ça tient quand ça même tient correctement. D'accord. Après, c'est pas le truc le plus imperméable de ça. Ça remplace pas un caouet, quoi. Mais c'est pas mal. Donc, on le retrouvait spécialement dans les paysages avec les paysans, les travaux de la terre, etc. C'était vraiment un chapeau qui coûtait peu cher, qui était facile à fabrication. Donc, en France, au 18e, ce sont les bergers, les vrais précurseurs. Alors, il y a un petit conflit hein, sur le béret béarnais ou le béret basque. En France, les origines, on va dire, sont du sud-ouest. Hein. Mmh. Car les bergers, ce sont eux qui ont inventé cette vraie technique de compression. À la base, ils mettaient cette petite pelade de laine des moutons dans leurs chaussures pour protéger du froid, etc. Et en fait, avec la compression du pied dans la chaussure, ça
la
a
créé... sueur et tout, ça crée le... ah, ça, ça crée... donne envie de se mettre crée... sur la tête, ce
ça
truc.
Ça crée
hein.
le feutre, le ouais. feutre qu'ils ont mis sur leur tête. Je sais pas à quel moment on passe d'un truc des pieds à la tête.
Ouais,
mais
c'est
m'expliquez
ça,
pas, c'est la logique masculine. On va pas chercher. Hein,
Ça devait sentir bon en tout cas.
Voilà. Alors, le mot béret en lui-même est apparu en 1835. Il vient du latin biretum, qui signifie
chapeau.
Bravo. Oh. Puis béret béarnais et ou béret basque, puisqu'il y a deux écoles.
Alors, les deux écoles ont la même forme.
Ah oui, la même forme.
C'est
oui.
le même. D'accord.
Oui, oui, c'est juste un petit combat des régions.
Oui,
en
le,
fait.
Le petit truc qui est au milieu, les deux, ils l'ont.
Ah oui, les deux, oui.
Ah d'accord.
Tous les bérets que je cite ont ce petit truc-là.
Oui, ça, pour le retirer plus facilement
ouais. Oui, c'est une question pratique, oui. Et puis un petit détail, je pense.
D'accord.
Voilà. Alors, donc c'est un chapeau...
Arrête de poser des questions à la con, toi. tu vois pas que tu l'embêtes, hein.
Non, parce qu'on a les bérets et les bourrés, quoi, franchement. Il y en a certains qui sont pas étanches.
Oui, aussi. Des bérets. C'est possible.
Qu'est-ce qui se
Merci, Titouan.
Alors, donc, pour résumer, c'est un chapeau de montagne, de montagnard et de dur labeur. C'est devenu ensuite un chapeau de militaire, comme tu l'as dit, symbole de la guerre et donc de la guerre en montagne, bien sûr avec les chasseurs alpins qui avaient des bérets bleu ciel. En parallèle en Espagne, vous avez les carlistes qui portaient des bérets rouges. Voilà. Donc là, on commence à avoir une notion de militaire, mais aussi de révolution qui commence à se mettre sur le béret. Donc, pour résumer, on retrouve une notion artistique, mais surtout les bergers, les militaires, le béret. C'est au début du XXe qu'il y a une petite révolution, car les femmes ont le droit de porter le béret.
Ah.
Et oui, elles peuvent enfin porter le béret exclusivement noir. Voilà.
Elle n'avait pas le droit.
Non. Ah non, c'était réservé aux hommes et c'était réservé au métier d'homme.
Mais c'est comme les jeans hein, à l'époque.
Oui, les voilà, pantalons,
comme
d'accord.
Les trois, mais, ouais, comme
mais
beaucoup.
C'est des conventions sociales qui faisaient qu'elles n'avaient pas le droit, mais il n'y avait pas d'écrit qui disait qu'elles n'avaient pas le droit.
Il n'y avait pas d'écrit, mais ça correspondait en fait.
Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un écrit, les jeans, c'est dans la loi.
C'est possible, les jeans c'était dans la loi, c'est vrai. Mais alors ça, je n'ai pas vérifié au niveau de la loi, mais c'est vrai que c'était des conventions, ça appartenait au métier d'homme en fait. C'était lié au métier d'homme, donc l'armée, les bergers, des métiers de labeur qui n'étaient pas réservés aux femmes, des métiers à l'extérieur beaucoup. Donc voilà, au début du XXe, donc révolution, les femmes peuvent enfin porter le béret. Il est essentiellement noir et il devient chic grâce à des poètes et grâce à des artistes comme Piaf, Arletty, Lorraine Bacall, etc. Enfin, la guerre arrive, symbole de la résistance française, le béret quand même. Et très utilisé par la Royal Tank Corps britannique, car elle servait, alors d'où le petit capuchon du haut, en fait elle servait à essuyer les taches d'huile. Il était noir, on le gardait foncé pour que les taches d'huile ne se voient pas.
D'accord.
Il y avait un
et
petit côté pratique.
Ils mettent encore des trucs bien dégueulasses sur leur tête.
Après,
exactement.
Ouais. Après les taches d'huile,
oui.
Bah, c'est bien, ça huile bien les cheveux.
Alors, dans les années 50, on retrouve la vraie déclinaison militaire que l'on connaît maintenant, donc les bérets verts, les bérets rouges pour les parachutistes.
Ça a plus les mêmes formes, par contre, le béret.
Il est un peu plus aplati. Ouais, c'est un peu plus.
Alors, la différence.
Ouais, il est un peu de côté.
Ah oui, alors, il y a plusieurs façons de le porter, le béret militaire. Oui, c'est sur le côté, oui, ouais. En effet. Et alors, le béret, sa particularité, il faut savoir qu'il est cousu en une fois, en fait. C'est une seule et même pièce. Il n'y a pas de bord, il n'y a pas de tissu.
D'accord.
Les bérets militaires ont un petit bord, soit un liseré en cuir, etc. Donc, on retrouve les bérets verts, les bérets rouges et parachutistes, les bérets bleus pour l'ONU, par exemple.
Pour les nus ?
L'ONU.
Ah, pardon.
L'ONU, Organisation des Nations Unies. Tu peux le porter nu aussi, le béret strict.
Ouais, c'est très chic. Très chic.
Tu peux faire quelque chose avec ça. Et enfin, dans les années 70, on le retrouve sur la tête du Che Guevara et Fidel Castro. Donc là, il prend une tournure militaro-activiste plutôt. On le retrouve sur les Black Panthers, on le retrouve sur des groupuscules comme les Brown Berets. Eux, ils avaient carrément le nom. Berets dans leur truc. Alors, c'était des Mexicains qui revendiquaient les terres prises par les États-Unis à l'époque. C'est dans les années 90 qu'on retrouve un vrai retour à la mode du béret qui n'aura aucune connotation. Donc, il est en vinyle, il est en cuir, il est sur les podiums de Chanel, de Thierry Mugler et de Dior. Et c'est depuis cette décennie qu'en fait, il est devenu un intemporel.
Et un article de mode, en fait.
Et un article de mode, absolument à voir. Fille comme garçon, d'ailleurs.
Ok, oui, voilà. Très bien. Sans la baguette, forcément.
Sans la baguette et la marinière, mais bon, c'est mignon quand même.
Oui.
Donc, cocorico quand même.
C'est vrai. Merci, Caroline. Il pousse rapidement, il faut le tondre souvent, il aime qu'on lui marche dessus. Alors, c'est pas titouan, hein, mais c'est sa chronique.
Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là, allongé dans l'herbe.
Tam, 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 tam.
Allongé dans l'herbe, d'accord.
Oui.
On adore ça. Bah, on va parler de s'allonger dans l'herbe, justement.
Ah oui.
Et de gazon, évidemment. Le gazon, c'est quoi ? Ça vient d'où ? Pourquoi ? Comment ? Pourquoi c'est partout ? Pourquoi on se fait envahir par les poissés ? Pourquoi on est allergique aux poissés ? Non, on répondra pas à ça.
Poissé ?
Poissé. C'est le nom de la famille.
Ah, c'est le nom de la famille du gazon.
Le nom de français de la famille, c'est graminée, mais le nom latin, c'est poissé.
Poissé.
Poissé. P-O-A-C-E-A-E.
D'accord.
Voilà.
Ah,
les gens qui travaillent leur chronique, c'est impressionnant.
Ouais, c'est dingue.
Il y a des gens, c'est un peu leur métier également. Et on va comprendre pourquoi il y a des gens qui en ont fait leur métier, parce que le gazon, en fait, c'est compliqué.
Et maudit.
Déjà, c'est complètement.
J'essaie de la placer aussi, bien joué.
Et donc, pour commencer, le gazon, déjà, c'est complètement différent de la pelouse, parce qu'en fait, la pelouse, c'est un mélange de plusieurs plantes qui sont certes basses, mais c'est pas une seule
spécialité.
Une seule espèce.
C'est le tapis vert, quoi, la pelouse.
C'est ça. La pelouse, c'est un tapis vert. Donc, il y a du plantain, il y a des pissenlits, il y a tout ce que vous voulez. Il y a un peu de gazon dedans. Enfin, de gazon. De régras anglais, parce que, bon, c'est du régras anglais, qui n'est d'ailleurs pas anglais, il est italien. Voilà, on fait un peu le tour du monde aussi. Donc, alors que le gazon est, lui, monospécifique, comme les champs de blé, qui sont monospécifiques. Les champs de maïs sont enfin, en fait, les champs en général sont monospécifiques.
C'est la même graine, c'est la même famille.
C'est une seule plante. D'accord. Partout. Et on va voir pourquoi c'est donc pas terrible pour la biodiversité. Mais d'abord, on va commencer sur d'où ça vient le gazon. Pourquoi on s'est dit ce serait super bien d'avoir du gazon.
Pourquoi cette plante-là plutôt qu'une autre
de vert comme ça. Alors, c'était parce que c'était facile. C'est les Romains. Ils voulaient un peu de vert dans leur jardin, un peu de tranquillité. Et du coup, ils allaient taper dans le champ de leur voisin un petit bout de prairie. Paf, on arrache ça de la colline et puis on transporte ça chez soi, on le met dans un pot de fleurs.
Ah mais c'est déjà ce qu'on fait pour le tram, c'est bien
c'est
ça, c'est
exactement
la même chose.
Ça, c'est le même gazon de plaquage finalement qu'on achète en coopérative agricole dans des gros rouleaux.
D'accord.
Et donc théoriquement les Romains ont inventé une technique industrielle de collecte du gazon pour faire du gazon de plaquage.
Pas mal.
Alors qu'on pouvait penser qu'ils prenaient les graines, ils les semaient, non. Arrachons ses voisins, c'est mieux.
C'est le plus simple, quoi.
Oui, c'est simple, efficace, c'est déjà fait, c'est déjà là, finalement. Pourquoi pas s'en servir ? Enfin, bref.
Moi, je fais ça.
C'est vrai ?
Avec mon voisin, ouais, ça la vend. Bon, faut pas qu'il écoute, mais... Les ronds-points aussi. Non, je
vais dire le béret. C'est mon béret, maintenant.
Bravo.
Chut.
Enfin. Et maintenant, alors, pourquoi le gazon, c'est pas bien ? À votre avis, pourquoi le gazon c'est pas bien ?
Bah toute monoculture, c'est
pour les animaux.
Alors déjà en effet la monoculture, les animaux, d'autres hypothèses. Les abeilles.
Ça sert à rien.
Ça sert à rien.
Ça sert
c'est vrai
à
en
rien.
Plus.
Bon, alors je vais vous le dire.
Et ça se fume pas.
Alors en plus. C'est vrai que c'est pas celle qui fume malheureusement. C'est pas non plus l'herbe à chat, même si les chats l'aiment bien. Alors c'est pas bien parce que notamment il n'y a aucune fleur dans un gazon et donc les abeilles n'ont rien à manger, les papillons n'ont rien à manger, enfin les insectes en général n'ont rien à manger. En plus c'est sur des endroits qui sont très exposés à la lumière du soleil, donc conclusion, il n'y a pas énormément de vie qui se développe dans le gazon. Et il y a un autre problème, c'est l'homme, pas parce qu'on le piétine mais parce qu'en réalité on a un minimum de 16 actions à faire sur un gazon pour conserver un gazon qui répond à la définition du gazon. Notamment la tonte, le ramassage, le regarnissage, le bordurage, le désherbage, avec des produits phytosanitaires à la main ou aux produits thermiques, la fertilisation, donc avec des engrais, de l'amendement, de l'arrosage, du terrotage, du roulage, du plaquage, du sablage, de l'aération, de la scarification, de la fauche, de carottage. Et
ça.
Encore, on a oublié un petit truc, en fait il y en a 17 parce qu'il faut le traiter, parce qu'il ne faut pas oublier que le gazon est malade, il a des champignons, il a des ravageurs, il a des trucs qui viennent l'arracher, enfin... C'est le bordel.
C'est
bah, autant mettre du béton directement. C'est, tu mets ton béton en verre et puis c'est gagné. Hein.
C'est ça. Mais c'est toujours mieux d'avoir un bout de gazon que d'avoir un bout de béton imperméable parce que le gazon garde quand même la propriété qu'il est perméable. Sauf quand on met des produits phytosanitaires dedans ou des engrais chimiques, ça finit dans les nappes phréatiques. Du coup, c'est pas top. Enfin, bref. Ça fait beaucoup d'actions, ça fait beaucoup de machinerie. On a inventé une industrie entière. C'est complètement incroyable. Je sais pas si vous êtes déjà allé sur un golf, allez voir les machines qu'ils ont. Mais c'est terrifiant. Vous avez des trucs avec des espèces d'énormes carottes, des tubes, des pics.
Donc c'est forcément du gazon sur le golf, sur tout
sur le
toute la partie
que du
golf.
Généralement, c'est que du régras anglais. Ou alors, c'est une toute petite gaminée. C'est une fétuque microscopique quand on la taille à genre 2 mm de la terre. Pour qu'elle tapisse bien et tout, c'est juste incroyable. 2 mm, je sais pas si vous voyez ce que ça fait, 2 mm de gazon. C'est...
Et donc les golfs, c'est eux qui ont eu pendant la sécheresse la possibilité quand même d'arroser.
D'avoir accès à l'eau. Et justement, l'eau, c'est un gros problème dans le gazon parce que ici, dans le nord, dans le centre, pardon.
Non, oui, dans le centre.
Ouais, dans le centre, excusez-moi.
À l'ouest.
Il pleut un petit peu de temps en temps, donc ça va, le gazon a pas trop soif. Par contre, dans le sud de la France, il pleut jamais et pourtant on arrose ce gazon tout le temps. Ou par exemple d'ailleurs, nous en France on n'a pas de loi là-dessus, mais en Californie, il est interdit d'arroser son gazon le jour et en plus il est interdit d'arroser son gazon et que ça coule sur la chaussée. Si ça coule sur la chaussée, c'est une amende directe.
Ah oui d'accord.
Tellement que c'est un truc de fou, la consommation d'eau d'un gazon. Et comme on a vu, c'est pas le seul problème. Et c'est très coûteux à la planète parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'est très coûteux pour les gens qui veulent un joli gazon. Il est omniprésent, on le voit au jardin du mail, on le voit au jardin des plantes, on le voit au château, on le voit sur les places du tram. C'est mieux que d'avoir du béton, mais c'est pas non plus ce qu'on peut faire de mieux. Et alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que le gazon ? Des idées ?
Bah, l'herbe, à partir du moment où elle est tendue, ça fait un peu...
Ouais. Et puis on tombe de temps en temps,
c'est
tout.
Ouais. La pelouse, déjà, c'est fantastique, parce qu'il y a du plantain, des pissenlits, des marguerites. C'est joli, c'est fleuri, on a envie de se balader dedans, de toucher les fleurs, de faire des colliers de fleurs, comme les épis.
Mais il faut tondre souvent, et puis...
Bah, pas forcément. Non. En fait, c'est tondre, c'est un concept assez... humain qu'on s'est donné parce qu'il faut que ce soit carré et tout. C'était les jardins du roi, vous voyez, c'est, ouais, les gazons, c'est le roi doit avoir, il a la main sur l'homme et il a aussi la main sur la nature, donc il faut que ce soit bien taillé et tout. Mmh. Mais non, il y a des choses vraiment super bien comme les gazons suisses, c'est des petits gazons avec que des marguerites et ça fait un tapis de marguerites. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est super beau.
Ouais, enfin, ça dure qu'un temps, ça. C'est des marguerites, c'est pas toute l'année.
Alors, dans le sud de la France, c'est toute l'année.
Ah oui,
ici, je sais pas.
Je te dis que non.
J'ai pas vu beaucoup de gazons fleuris, donc je sais pas ce que ça donne des marguerites dans le nord de la France. Mais voilà, dans le sud,
ça existe pas, les gazons fleuris, hein, du coup.
Enfin, du coup, c'est des alternatives au gazon.
Ouais, c'est ça.
Ça s'appelle des alternatives au gazon ou des prairies, parce qu'en effet, il y a plein de prairies. On peut utiliser du serpolet, c'est un petit thym qui est tout rose, qui est trop mignon, ça sent super bon. De marcher dedans, ensuite, au lieu d'avoir les chaussures qui sentent la crasse, et les peaux d'échappement et les peaux catalytiques, on a les peaux qui sentent les chaussures. Enfin,
les peaux qui
sentent. A... les peaux de fleurs aussi, mais on a les semelles qui sentent le thym et on marche comme
mais
ça.
Mais pourquoi il n'y a pas ça du coup? Pourquoi ils n'y pensent pas?
Eh bien, parce que c'est pas, culturellement, c'est pas acceptable, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est que on continue
rapidement,
de se...
hein, s'il te plaît.
Ouais. On continue de se mettre en tête cette idée du gazon tout droit, tout plat, etc. On le voit dans les trams, on le voit sur les jardins publics, etc. C'est bien beau, c'est tout droit. Et du coup, on se dit quoi? On se dit qu'on veut tous avoir ce jardin-là à la maison, on veut tous avoir ce beau gazon, parce que ça nous donne un côté, ouais, on a un gazon, vous voyez, on a de l'argent à dépenser, on a un statut social parce
c'est
qu'on a du gazon.
Quoi.
Exactement. Ah. Et alors que franchement, les fleurs, c'est vachement mieux. Ou même si on veut vraiment un gazon vert, on peut avoir du zeusia. C'est un gazon qu'en fait, on va jamais tondre, et ça fait vraiment une couche de gazon. Et ça crée des petites bosses et tout, c'est un gazon japonais, c'est merveilleux. Et puis juste de se jeter dedans, ça fait vraiment un matelas. Et vous pouvez passer la journée vraiment avec le soleil sur vous, vous êtes au frais, c'est juste merveilleux.
Et encore nu.
Avec un béret bleu.
Et encore nu avec un béret bleu. Bref,
très
voilà.
Gros merci,
dites-vous. Sur vos gazons.
Bah oui,
c'est
sur vos pelouses.
Alors, gros
sur
bisous sur vos gazons, ouais, si tu veux, mais. Ok, on n'est pas au point G ici. Allez,
À retrouver à 23h.
C'est ça.
Merci. Sur Radio G.
Je vous prie.
Bon, allez, il est temps d'écouter le Graal. Margot nous demande si le Yeti existe. Voici la réponse.
Oh, Margot.
Question de Margot. Le Yeti existe-t-il?
Yeti, Yeti pas. Voyons ça. Je pense que tu parles de l'abominable homme des neiges. Il habiterait les montagnes de l'Himalaya. Mais dans le genre, il y a des cousins dans d'autres montagnes, hein, dans les rocheuses des États-Unis, mais aussi au Canada et même dans le Caucase. Il serait un grand singe se tenant debout comme les humains, une espèce encore inconnue. Ou alors un néandertalien, notre ancêtre, ayant survécu. Mais bon, force est de constater que personne n'a jamais vu le Yeti, ni même son empreinte, à part de nombreux fakes. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fait des expéditions. On a même ramené des indices. Et c'était tantôt des poils de chèvre, tantôt des ours confondus avec le Yeti. Par contre, dans la littérature, cet animal légendaire existe bel et bien. Chez Bob Morad en 1958, mais aussi dans Tintin au Tibet ou dans Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. Et même dans la pub, où le Yeti est l'égérie de la marque Tic Tac, ou encore du papier toilette Lotus. Oui, c'est abominable.
C'était le Graal à retrouver sur Spotify et Instagram avec le nom Question Graal. Abonnez-vous. Allez, dans un instant, donc on va savoir le CMA de la semaine. Chaque semaine, un panel d'auditeurs vote pour la chronique qui leur a appris des choses ou qui les a amusés. Celle qui a le plus de voix est déclarée CMA+, et se retrouve dans le podcast des meilleurs moments de l'émission. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de temps libre, de basketball, de contraception...
On n'a pas le...
De basketball.
Même sport.
Ouais, c'est ça. De contraception, de réveil et de selkova. C'était l'arbre qui était dans le jardin des plantes. Eh bien, l'information qui a intéressé notre panel était locale. Un sujet qui touchait les Angevins, puisque c'est le sort de l'arbre du jardin des plantes qui se casse la figure et qui remporte le maximum
Merci
de suffrages.
Bravo
donc,
vu, moi.
Bravo
allée,
donc à Titouan.
Ah, t'y es pas allé.
Elle a pas.
Je suis allée, mais je l'ai pas vu.
Tu l'as pas vu, c'est juste en rentrant quand tu descends un petit peu à droite.
Il est vachement caché, hein. Il est tellement grand qu'il est caché.
Ah ouais, non, non.
Non, mais c'est vrai, il y a des barrières maintenant.
Non, mais tu peux pas te passer.
On peut pas s'en approcher, mais on le voit.
C'est clair. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis.
Yes.
Merci à nos chroniqueurs du soir. Merci Caroline.
Merci, bisous.
Merci Robin.
Merci.
Merci Titouan.
Merci.
Merci Sandra. Merci Florian.
Merci.
Merci Nicolas.
Merci.
On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit. Et en attendant, n'oubliez pas, on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.